Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui pèse trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Mathilde Bouchou est psychologue et psychothérapeute spécialisée en périnatalité. La périnatalité étant, je cite, « la période allant du désir de concevoir un enfant jusqu'à un an de celui-ci ». Elle exerce en cabinet à Paris à distance et anime le podcast Parentalité. Parce que son interview est très riche d'enseignements et de conseils pratiques, et parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous, en mode vacances, c'est l'occasion de vous proposer et tester un nouveau format, celui d'une série de plusieurs courts épisodes, la saga d'été en quelque sorte. Dans le troisième et dernier volet de cette série estivale, cet expert du devenir parent donne son regard sur les pensées limitantes qui freinent l'avancée de certaines mères et revient sur quelques situations spécifiques, les parcours de PMA, les postpartums difficiles et les mères solo. En préambule, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, d'écouter le volet 1 de cette interview qui traite des bouleversements liés à la parentalité et à la reprise, et le volet 2, où Mathilde Bouchou nous livre ses questions et conseils clés pour bien s'y préparer. Bonjour Mathilde.
Bonjour Tinuane.
Vous me disiez que la reprise était une période très importante. Comment vous pourriez la qualifier, cette période ?
La reprise, c'est un moment de transition, ça peut être un moment un peu de fragilité. C'est un moment aussi, quand voilà, on parlait de ces changements de fonctionnement cognitif, etc., on peut du coup pas se sentir à la hauteur, on peut se sentir plus compétente, en plus ça peut être renvoyé aussi par l'entreprise. Donc là, on va alimenter une mauvaise image de soi, puis il suffit aussi qu'on n'ait pas perdu tous ces kilos de grossesse, qui est normal hein, à 3 mois, qu'on rentre plus dans ses vêtements, qu'on ait quelques réflexions de collègues. En tout cas, voilà, là aussi, comment pas essayer de... toute la difficulté d'entrer dans quelque chose d'un cercle qui est un peu néfaste, où ça va alimenter une mauvaise estime, une mauvaise image de soi. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir justement mettre voilà, en place tout ce dont on a parlé pour se connecter à une bonne image de soi. Voilà. Et que plus on se dévalorise, parce que les femmes, ça, elles sont très fortes pour ça, pour se dévaloriser. J'ai pas fait ça, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, j'ai pas réussi à gérer à la fois mon travail et mon bébé. Et cool, voilà.
Et en plus, on en passe toutes par là.
Exactement.
Alors, vous parliez de pensées limitantes. Quelles sont-elles ?
Je pense à ça, voilà, à toutes ces représentations qu'on peut avoir de l'entreprise. Voilà, si j'annonce là que je suis enceinte pendant la période d'essai, on va mettre fin à ma période d'essai. Voilà, ce genre de pensées-là, finalement, qui sont de la projection, qui sont de la projection d'inquiétude. Oui. Alors, qui sont beaucoup véhiculées, hein, mais...
Oui, qui est en fait liée à la culture d'entreprise ou en tout cas à des représentations d'une entreprise pas bienveillante vis-à-vis de la maternité.
En France, à la fois, on veut que les individus aient des enfants, et en même temps, on fait rien pour faciliter ça ou pour les aider. Voilà, il y a aussi une dimension culturelle. Là, je pense à d'autres pays européens. Alors, je sais pas comment ça se passe concrètement par rapport à la reprise du travail, mais même dans les restaurants, par exemple au Portugal, voilà, les enfants, ou en Italie, les enfants sont extrêmement accueillis partout. Vous allez même dans un restaurant branché. On vous trouvera une place avec vos enfants. À Paris, vous allez dans un restaurant branché. Si vous arrivez avec des enfants, vous dire c'est complet, même si toutes les tables sont vides. Voilà. Donc il y a aussi une mentalité et culturelle de la société de comment on regarde les femmes enceintes. Voilà, là aussi, hein, combien de femmes enceintes en France, la femme enceinte, elle fait la queue, alors qu'il y a plein de pays où les femmes enceintes, ça n'est même pas un sujet. Oui. Elle ne fait pas la queue, quoi.
Oui. On lui laisse la place dans le bus.
Ouais. Voilà, là, dans le métro, vous ouais. êtes enceinte de 9 mois, il faut quand même vous battre pour.
Oui, je confirme.
donc voilà, il y a aussi tout ça, c'est-à-dire que culturellement, ben, la manière dont on voit les familles et les enfants, on voit beaucoup ça sous un prisme un peu. Alors, je ne sais pas si négatif est le bon terme, mais en tout cas de la contrainte, de la difficulté, et qui n'est pas quelque chose qui est valorisé par rapport à la société.
Oui, c'est vrai ce que vous dites, effectivement, et on sort du cadre unique de l'entreprise, mais qui, du coup, rejaillit sur l'entreprise. En fait, on ne se sent pas bienvenue nulle part.
Oui.
Oui, donc du coup, forcément, les femmes, les mères intègrent ça, s'auto-censurent. Et en plus, j'imagine qu'on parle beaucoup d'injonctions, de la mère parfaite, de la mère sacrificielle. J'imagine que ça ajoute encore un peu plus de culpabilité pour celles qui ont envie de retravailler.
Oui, alors là, je pense à toutes les mamans sur les réseaux sociaux. Alors moi, je tiens à dire que pour beaucoup d'entre elles, c'est leur travail.
Les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux. Et que du coup, bah, quand c'est son travail... Bah oui, voilà, on va avoir une magnifique photo où tout va être parfait et que c'est pas la vraie vie puisque alors le travail c'est une forme de vraie vie mais c'est pas toute la vraie vie quoi. Donc voilà, pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ça.
Oui.
Que la mère parfaite elle existe pas. Hein. Mmh. Voilà, dans parentalité on dit les parents parfaits ils ont pas d'enfants.
Oui c'est ça. Les parents parfaits, ils ont des principes, mais ils n'ont pas d'enfants. C'est exactement
voilà,
ça.
C'est ça. Et puis, voilà, là, quand je repense aux pensées limitantes, moi, j'entends tellement de mes patientes me dire, en plus, les femmes que j'accompagne en parcours de PMA, qui me disent, mais si je suis là, je suis enceinte, je pourrais pas changer de travail, c'est pas possible, jamais on me recrutera enceinte, on va me mettre au placard. Non, voilà, il y a des moments dans la vie... on a besoin d'avancer, voilà. Et d'autant plus, là, je pense à la situation de PMA quand le bébé vient pas. Si on a envie et besoin de changer de travail, il faut le faire. Si l'entreprise refuse, si l'entreprise vous annoncez que vous êtes enceinte et avant la période d'essai met fin à la période d'essai, c'est que c'est pas une bonne entreprise.
Oui, c'est ça.
Ça envoie pas un bon message, en tout cas sur les qualités humaines de cette entreprise-là. Donc, a priori, c'est que vous aurez pas envie de toute façon de travailler avec des gens comme ça.
Oui, et puis c'est déjà un signal d'alerte. Parce
tout
que ça
fait.
Peut potentiellement, au-delà de leur vie, ça peut être une entreprise malveillante ensuite pour le reste de la grossesse et du retour du congé maternité. Donc,
tout à fait.
Oui. Quand on parle de pensées limitantes ou d'injonctions, est-ce qu'il y a des petites phrases que vous avez entendues qui vous chiffonnent à chaque fois concernant ce sujet de la reprise ?
En tout cas, voilà, moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, qui est « On attend des femmes qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles élèvent leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas. » Donc là, on voit bien qu'on se retrouve dans un dilemme qui est complètement cornélien. Et là, voilà, vraiment l'importance... De mettre ça à distance et de se centrer pour soi.
Parce qu'en fait, c'est une phrase qui appelle à se nier, en fait, en tant que mère.
Tout à fait.
Et en tant que femme, parce qu'on est femme et mère, donc on n'est pas...
Tout à fait, complètement.
Si on regarde des situations un peu spécifiques, parce que vous accompagnez du coup des problématiques spécifiques dans le cadre de votre accompagnement sur la périnatalité, vous parliez de PMA tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rapport particulier des parents dans leur parcours PMA vis-à-vis de la reprise du travail ou vis-à-vis du travail même de manière générale, parce que vous parliez du moment avant la grossesse, de toutes les tentatives, et c'est à chaque fois des reprises d'ailleurs qu'elles soient, surtout quand ça doit être compliqué, quand les tentatives aboutissent pas sur des succès.
Alors oui, cette question du travail est souvent très présente pendant le parcours de PMA. Et l'écueil un peu dans lequel souvent se retrouvent les couples en parcours de PMA, c'est le fait de tout figer. Le fait de dire, on se concentre sur ce parcours, on met tout pour que ça marche, ce qui est super, mais quand ça vient pas, tout le reste est figé. Et du coup, ça c'est très douloureux. Et puis souvent les couples disent bah eux ils avancent, alors ils avancent parce qu'ils ont eu des enfants, mais elle a changé de job, nanana. Donc l'impression que eux sont du coup enfermés, tout stagne, ouais. Tout stagne, rien ne bouge, alors que à côté voilà il y a les trains qui défilent quoi.
Ouais.
Donc voilà, je crois que alors de fait hein, un parcours de PMA c'est très contraignant d'un point de vue médical, donc il y a des moments où tout est centré sur ça. Et puis, il y a des moments où ça s'arrête. Mmh. Et quand ça s'arrête, là, c'est important de reprendre sa vie, d'avoir des projets, de partir en vacances. Il y a des couples qui disent, bah non, on prévoit rien. On prévoit rien, on prévoit pas de partir en vacances. Le voyage dont on rêve, bah,
ça sera après.
Ça sera après. Mais bon, ça sera jamais, en gros.
Ouais, mais avec un enfant.
Donc voilà. Moi, je les invite vraiment à, et là, par rapport à la question du travail, le nombre de femmes que j'entends qui disent, bah, je suis pas bien dans mon travail. Mais bon, quand même, ça sera là. Voilà, je suis là depuis longtemps, donc le fait que je puisse m'absenter du fait du parcours, ben, y a une forme de confort. Puis après, je poserai mon congé maternité, puis j'y retournerai jamais. Bon, sauf que le congé maternité, il met du temps à arriver, donc comment elles vivent en attendant ça? Et puis on sait pas toujours quand ça va arriver,
mmh.
Donc ça peut parfois mettre beaucoup de temps.
Mmh.
Et puis bon, ce temps après, il est vécu de manière beaucoup de temps, ça peut être 6 mois hein, pour quelqu'un. Hein, ça peut être... Donc voilà, je crois que c'est important que ce qu'on croit qui est du confort ne l'est pas forcément. Et quand elles arrivent à sortir de cet enfermement et à se dire bah voilà finalement oui je vais changer de job et bah peut-être dans mon job je vais leur dire jusqu'à maintenant je l'avais pas dit ou je verrai quand ça arriverait puis je m'organiserai voilà là aussi il y a toujours des solutions et là aussi il y a beaucoup de pensées limitantes donc essayer de voilà de pas se bloquer avec des pensées limitantes et de s'autoriser à être vraiment le plus en accord avec soi. Une femme qui est bien dans son boulot, bah, le parcours de PMA, même s'il est dur, elle le traversera aussi avec plus de facilité. Si en plus, elle est insatisfaite au travail, elle est malheureuse, elle supporte plus ses collègues et son boss, ça, voilà, c'est explosif, ça va pas le faire, quoi.
Oui, le mental, il prépare pas le corps à ça.
Voilà, alors, ça veut pas dire hein, que ça aurait un effet direct sur la réussite ou l'échec, mais il y a une certaine forme de logique, c'est que plus on est bien, plus... Voilà, ça va aider, favoriser, soutenir. Ça garantit pas que ça fonctionne. Bien sûr. Mais ça aide. Et puis, moi, je leur dis souvent aussi, le fait d'être bien, ça construit un petit matelas. Quand on tombe, parce que quel que soit le résultat, quand on tombe sur un petit matelas, bah, c'est quand même moins douloureux que de tomber directement par terre.
Ah oui, c'est ça.
Donc, voilà. Là, à nouveau, voilà, pensez à soi.
Oui, je comprends.
Qu'est-ce qui est bon pour soi? Et si on n'en peut plus de son boulot, bah, il faut changer de job. Voilà. Et on trouvera des solutions. Ouais. Voilà.
Et on s'adaptera. Parce qu'effectivement, dans un parcours PMA, les tentatives sont pas forcément réussies tout de suite. Donc, si on échoue, évidemment, le petit matelas, il est quand même bienvenu.
Oui, et puis là, s'autoriser, quand on est dans un parcours, là, le lendemain d'une ponction d'ovocyte, bah, on est quand même pas très en forme. Voilà, après une stimulation, c'est éprouvant pour le corps. On a le droit de prendre quelques jours d'arrêt. Alors, certains médecins le proposent, d'autres le proposent pas, mais la femme a le droit de demander aussi. Oui. De dire, bah là, j'en peux plus. Ou là, j'ai besoin, voilà, d'être dans ma bulle pour accueillir ce qui est en train de se passer, pour franchir chacune de ces étapes. Et bah, pour ça, voilà, je vais demander un arrêt de quelques jours, pour que ça soit plus confortable. Ou, voilà, j'ai des patients qui s'arrêtent durant la stimulation, parce que durant la stimulation, il y a beaucoup de rendez-vous.
Oui.
Voilà, de s'autoriser aussi à agir sur son environnement. On parlait, voilà, comment on agit sur son environnement au moment de la reprise, mais là, voilà, aussi, comment on peut agir sur son environnement pour rendre les choses plus faciles et pour construire ce petit matelas.
Oui.
Voilà. Et puis le matelas est épais, voilà. Moins la chute est douloureuse, hein,
oh oui.
si elle doit arriver. Pour ce qui est de la reprise dans ces parcours-là, moi, ce que j'ai pu observer, alors je sais pas si c'est vraiment une généralité statistique, mais c'est notamment lorsque la grossesse a beaucoup tardé, voilà, des femmes qui ont plutôt entre 40, 45 ans, souvent elles s'autorisent à prendre un peu plus de temps que le congé maternité classique. Mmh. Voilà, elles vont prendre un congé parental, bien souvent. Et là aussi, mais voilà, quelle que soit sa situation, hein, voilà, si on en a besoin, voilà, de pouvoir s'autoriser à le faire, et puis voilà, comment on va s'organiser pour que ça soit possible.
Et elles prennent le temps, du coup. Enfin, elles s'octroient la possibilité, évidemment, de prendre du temps là où elles n'auraient pas peut-être fait dans le cadre d'une grossesse classique.
En tout cas, plus la grossesse est tardive, parfois il y a aussi cette idée qu'il n'y aura qu'un seul enfant. Donc l'idée aussi, voilà, d'en profiter au maximum.
Dans un autre type de cas, d'ailleurs ça peut être aussi lié à des cas de PMA ou la suite de PMA, mais dans le cas de postpartum difficile, comment peut s'envisager une reprise?
Alors là, je pense à plein de situations. Je pense des situations telles que la dépression du postpartum ou suite à une naissance prématurée, des situations un peu comme ça, ou après un deuil périnatal aussi. Voilà, quand on a perdu son bébé, reprendre son travail, voilà, ça peut être un peu compliqué. Ou à l'inverse, on peut avoir envie de le reprendre très rapidement pour reprendre une vie. Voilà, ce temps de congé maternité peut être un peu compliqué à vivre. En tout cas, là, je crois vraiment l'importance de s'écouter, de respecter son rythme. Voilà, lorsqu'il y a une dépression du postpartum, alors parfois, là, en plus, la dépression vraiment arrive au moment de la reprise.
Ah oui.
Donc, voilà, les femmes vont se retrouver en arrêt quelques semaines, quelques mois après. En tout cas, voilà, là, vraiment, l'importance de prendre le temps. Vraiment, là, dans les cas de naissance prématurée, alors, en fonction de l'évolution du bébé, voilà, s'il y a des conséquences de la prématurité, ça peut avoir un impact sur le mode de garde. Il y a des bébés prématurés qui pourront pas aller dans un mode de garde collectif. Donc ça aussi, tout ça, ça peut amener les femmes à justement mettre leur vie professionnelle de côté alors que c'est pas ce qu'elles souhaitent. Et ça peut être douloureux aussi pour certaines qui ont vraiment envie de reprendre, mais d'un point de vue logistique, du fait de la situation, bah c'est compliqué. Donc là aussi, voilà, quelles ressources on va pouvoir mobiliser, comment on va pouvoir s'organiser pour reprendre à mi-temps. Voilà, c'est pas possible à temps plein.
Ou à minima prendre du temps pour soi.
Ou à minima prendre du temps pour soi, tout à fait.
Voilà. Oui, il faut. Ce que vous dites, c'est qu'il faut s'écouter et dans un sens comme dans un autre, on arrivera toujours à trouver des solutions. C'est pas tant une question de choix que de se permettre de s'autoriser à s'écouter, en fait.
Tout à fait.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres situations spécifiques que vous aviez en tête?
Non, pas particulièrement. Alors moi, j'accompagne beaucoup de mamans solo. Oui. Voilà, là, il n'y a pas de choses... peut-être la chose différente dans ces types de situations, c'est la question de l'organisation. Voilà, comme là, il n'y a pas de conjoint qui est le premier relais ou le parti prenant pleinement de l'organisation. Donc là, voilà, la question vraiment d'anticiper, d'organiser, de mobiliser des relais, voilà, est là essentielle.
Oui, parce que j'imagine que dans leur cas, prendre du temps pour soi est primordial.
Oui, oui, oui. Là aussi, c'est extrêmement important. Donc voilà, comment elles vont pouvoir organiser ça?
Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour le mot de la fin?
Alors, le mot de la fin, ça serait voilà, de s'écouter, de respecter son rythme, voilà, de prendre soin de soi et que tout est OK. Voilà. Et que ce qui est OK, c'est ce qui est OK pour soi et de pas se comparer avec la voisine ou la maman des réseaux sociaux. Et puis, quand on reprend dans un environnement de travail qui est malveillant, bah, peut-être qu'il faut pas reprendre.
Oui, c'est s'écouter aussi.
Ouais, voilà, à nouveau s'écouter.
Ouais.
Se remettre au centre, mettre l'église au milieu du village. Et par rapport à ce qui se joue durant cette période de la reprise du travail, voilà, cette période-là, c'est aussi un révélateur. Hein, je vous le disais, mais j'aime bien cette formulation des incohérences ou des insatisfactions qui peuvent exister dans notre vie. Il y a un gynécologue, Hugues Reins, qui dit « La grossesse est une psychothérapie naturelle ». J'aime beaucoup cette phrase parce que ça dit bien à quel point cette période périnatale est une période introspective qui amène à un temps de réflexion sur soi, voilà, où on va se questionner sur ce qui est important dans sa vie, sur ce qui a du sens pour soi.
Oui, d'où cette quête de sens pour beaucoup, en fait, finalement. Ouais. C'est extrêmement logique par rapport à ce que vous dites. Donc, ça amènerait même à se dire que de considérer cette période qui est compliquée comme une période finalement super précieuse pour savoir vraiment comment, entre guillemets, guider sa vie ensuite.
Oui. En tout cas, je disais tout à l'heure que ça peut être une période d'affirmation de soi, d'affranchissement, d'épanouissement, de développement personnel. Mmh. En effet, voilà, vraiment. Et il y a beaucoup de femmes hein, aussi qui disent, bah, une fois qu'elles ont un enfant, elles se sentent plus fortes pour affirmer certaines choses, pour prendre la parole. Donc oui, voilà, c'est vraiment une période voilà de remise en question, de développement, de transformation. Et puis voilà, où on va, en tout cas beaucoup aujourd'hui, profitent aussi de cette période-là et de ce temps-là pour initier des changements, pour être plus en accord avec ses valeurs, avec le sens qu'on veut donner à sa vie.
Mmh. Merci beaucoup. On va rester sur ces mots de cette période finalement si précieuse pour notre identité.
Mmh, tout à fait.
Merci beaucoup, Mathilde.
Je vous en prie, Tina.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.